Nous reprenons la lecture du crime d'Orcival d'Émile Gaboriau. Nous nous arrêterons au début du 9e chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel. Mais Guespin, interrogea anxieusement le vieux juge, avez-vous de nouveau questionné Guespin ?
Oh, fit monsieur Domini, pour ce qui est de celui-là, tout est dit.
Il a avoué ? Demanda monsieur Lecoq stupéfié. Le juge d'instruction se tourna à demi vers l'homme de la police comme s'il eût trouvé mauvais qu'il osât le questionner.
« Guespin n'a rien avoué, répondit-il néanmoins, mais sa cause n'en est pas meilleure. Nos bateliers sont revenus. Ils n'ont pas encore retrouvé le cadavre de M. de Trémorel qu'ils supposent avoir été entraîné par le courant. Mais ils ont repêché d'abord, au bout du parc, dans les roseaux, l'autre pantoufle du comte, puis au milieu de la Seine, sous le pont. Remarquez bien ce détail, sous le pont, une veste de drap grossier qui porte encore des traces de sang. Et cette veste est à Guespin ? Demandèrent ensemble le vieux juge de paix et l'agent de la sûreté. Précisément, elle a été reconnue par tous les gens du château et Guespin a avoué sans difficulté qu'elle lui appartient. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Domini s'arrêta comme pour reprendre haleine, en réalité pour faire languir un peu le père Planta. Par suite de leur divergence d'opinion, il avait cru reconnaître en lui une certaine hostilité sourde, et la faiblesse humaine ne perdant jamais ses droits, il n'était pas fâché de triompher un peu. « Ce n'est pas tout, poursuivit-il. Cette veste avait à la poche droite une large déchirure et un morceau de l'étoffe avait été arraché. Ce lambeau de la veste de Guespin, savez-vous ce qu'il était devenu ? Murmura le père Planta, c'est lui que nous avons retrouvé dans la main de la comtesse. Vous l'avez dit, monsieur le juge de paix. Que pensez-vous, je vous prie, de cette preuve de culpabilité du prévenu ? Le père Planta semblait consterné, les bras lui tombaient. Quant à monsieur Lecoq, qui, devant le juge d'instruction, avait repris sévèrement son attitude de mercier retiré, il fut à ce point surpris qu'il faillit s'étrangler avec un morceau de pâte. « Mille diables, disait-il tout en toussant, réparation d'honneur, voilà qui est fort. » Il eut un sourire niais et ajouta plus bas et pour le seul père Planta. « Très fort, quoique du même tonneau est prévu par nos calculs. La comtesse tenait entre ses doigts crispés un lambeau de drap, donc il a dû être placé là intentionnellement par les meurtriers. » Monsieur Domini n'avait pas relevé l'exclamation. Il n'entendit pas la réflexion de monsieur Lecoq. Il tendit la main au père Planta et lui donna rendez-vous pour le lendemain au palais. Puis il sortit en menant son greffier. Guespin et le vieux Laripaille, les menottes aux mains, avaient été quelques minutes plus tôt dirigés sur la prison de Corbeil sous la conduite des gendarmes d'Orcival. Dans la salle du billard du château de Valfeuillu, le docteur Gendron venait d'achever sa funèbre besogne. Il avait retiré sa veste, habit noir à larges manches, à basque immense, à boutonnière ornée du ruban rouge de la Légion d'honneur. Véritable habit de savant, et il avait retroussé bien au-dessus du coude, les manches de sa chemise de forte toile. Près de lui, sur une petite table destinée à recevoir les rafraîchissements, étaient épars les instruments dont il s'était servi, des bistouris et plusieurs sondes d'argent. Il avait dû, pour les investigations, dépouiller le cadavre, et il l'avait entièrement recouvert d'un grand drap blanc qui dessinait vaguement les formes du corps et dépassait, d'un côté, les bandes du billard. La nuit était venue, et une grosse lampe à globe de cristal dépoli éclairait cette scène sinistre. Penché au-dessus d'un immense seau d'eau, le docteur finissait de se laver les mains lorsqu'entrèrent le vieux juge de paix et l'agent de la sûreté. Au bruit de la porte, M. Gendron se redressa vivement. « Ah, c'est vous, Planta, » dit-il d'une voix dont l'altération était parfaitement sensible. « Où est M. Domini ?»«
Parti !»
Le docteur ne prit pas la peine de réprimer un mouvement de vive impatience.
« Ah, il faut pourtant que je lui parle, dit-il, c'est indispensable, et le plus tôt sera le mieux, car enfin, je me trompe peut-être, je puis me tromper. »
Monsieur Lecoq et le père Planta s'étaient approchés, renfermant la porte qu'assiégeaient les domestiques du château. Entré dans le cercle de la lumière de la lampe, il put voir combien étaient bouleversés les traits si régulièrement calmes de Monsieur Gendron. Il était pâle. Plus pâle que la morte qui gisait là sous ce grand drap. L'altération des traits et de la voix du docteur ne pouvait être causée par la tâche qu'il venait de remplir. Certes, elle était pénible, mais M. Gendron est un de ces vieux praticiens qui ont tâté le pouls à toutes les misères humaines, dont le dégoût s'est blasé aux plus hideux spectacles, qui en ont vu bien d'autres, enfin. Il fallait qu'il eût découvert quelque chose d'extraordinaire. « Je vais, mon cher docteur, lui dit le père Planta, vous adresser la question que vous m'adressiez il y a quelques heures. Vous trouveriez-vous indisposé? Êtes-vous souffrant ?» M. Gendron secoua tristement la tête et répondit avec une intention calculée et parfaitement notée. « Je vous répondrai, mon ami, précisément ce que vous m'avez répondu. Je vous remercie, ce n'est rien, je vais déjà mieux. » Alors, ces deux observateurs également profonds détournèrent la tête, comme si, redoutant d'échanger leurs pensées, ils se fussent défiés de l'éloquence de leurs regards. Monsieur Lecoq s'avança. « Je crois savoir, dit-il, les raisons de l'émotion de monsieur le docteur. Il vient de découvrir que madame de Trémorel a été tuée d'un seul coup. » Et que plus tard, les assassins se sont acharnés sur un cadavre déjà presque froid. Les yeux du docteur eurent, en s'arrêtant sur l'agent de la sûreté, une expression d'immense stupeur. « Comment avez-vous pu deviner cela ? » demanda-t-il.
« Oh, je n'ai pas deviné seul, » répondit modestement M. Lecoq. « Je dois partager avec M. le juge de paix l'honneur du système qui nous a amenés à prévoir ce fait. »
M. Gendron se frappa le front.
« En effet, s'écria-t-il, je me rappelle maintenant votre recommandation. Dans mon trouble qui a été grand, il faut bien que je le confesse, je l'avais totalement oublié. »
M. Lecoq crut devoir s'incliner. « Eh bien, reprit le médecin, vos prévisions se trouvent réalisées. Entre le premier coup de poignard qui a donné la mort et les autres, il ne s'est peut-être pas écoulé tout le temps que vous supposez, mais je suis persuadé que madame de Trémorel avait cessé de vivre depuis près de 3 heures, lorsqu'on l'a frappée de nouveau. » M. Gendron s'était approché du billard, et lentement il avait relevé le drap mortuaire, découvrant ainsi la tête et une partie du buste du cadavre. « Éclairez-nous donc, Planta, » demanda-t-il. Le vieux juge de paix obéit. Il prit la lampe et passa de l'autre côté du billard. Sa main tremblait si fort que le globe et le verre s'entrechoquaient. La lumière vacillante promenait sur les murs des ombres sinistres. Cependant, le visage de la comtesse avait été lavé soigneusement, les plaques de sang et de vase avaient été enlevées. La marque des coups était ainsi plus visible, mais on retrouvait sur cette figure livide les traces de sa beauté. M. Lecoq se tenait en haut du billard, se penchant pour examiner de plus près. « Madame de Trémorel, disait le docteur Gendron, a reçu 18 coups de poignard. De toutes ses blessures, une seule est mortelle, c'est celle-ci. Dans la direction est presque verticale, tenez, là, un peu au-dessous de l'épaule. En même temps, il montrait la plaie béante et sur son bras gauche, il soutenait le cadavre dont les admirables cheveux blonds s'éparpillaient sur lui. Les yeux de la comtesse avaient conservé une expression effrayante. Il semblait que de sa bouche entr'ouverte, ce cri allait échapper. « À moi, au secours !» Le père Plantat, l'homme au cœur de pierre, détournait la tête et le docteur, devenu maître de son émotion première, continuait de cette voix un peu emphatique des professeurs à l'amphithéâtre. La lame du couteau devait être large de 3 cm et longue de 25 au moins. Toutes les autres blessures, aux bras, à la poitrine, aux épaules, sont légères relativement. On doit les supposer postérieures de 2 heures au moins à celle qui a déterminé la mort. « Bien !» fit M. Lecoq. Remarquez, reprit vivement le docteur, que je n'émets pas une certitude, j'indique simplement une probabilité. Les phénomènes sur lesquels se base ma conviction personnelle sont trop fugitifs, trop insaisissables de leur nature, trop discutés encore pour que je puisse rien assurer. Cet exposé du docteur parut contrarié vivement M. Lecoq. Cependant, dit-il, du moment où, ce que je puis affirmer, interrompit M. Gendron, c'est que sans scrupule, j'affirmerai devant un tribunal, sous la foi du serment, c'est que toutes les plaies contuses de la tête, à l'exception d'une seule, ont été faites bien après la mort. Pas de doute, pas de discussion possible. Voici, au-dessus de l'œil, le coup donné pendant la vie. Comme vous le voyez, l'infiltration du sang dans les mailles des tissus a été considérable. La tumeur est énorme, très noire, au centre et plombée. Les autres contusions ont si peu ce caractère que même ici, où le choc a été assez violent pour fracturer l'os temporal, il n'y a aucune trace d'ecchymose. Il me semble, monsieur le docteur, insinua monsieur Lecoq, que de ce fait acquis et prouvé, que la comtesse a été, après sa mort, frappée par un instrument contondant, on peut conclure que c'est également lorsqu'elle avait cessé de vivre qu'elle a été hachée à coups de couteau. Monsieur Gendron réfléchit un moment. « Il se peut, monsieur l'agent, dit-il enfin, que vous ayez raison, et pour ma part, j'en suis persuadé. Pourtant, les conclusions de mon rapport ne seront pas les vôtres. La médecine légale ne doit se prononcer que sur des faits patent, démontré, indiscutable. Si elle a un doute, le moindre, le plus léger, elle doit se taire. Je dirai plus, s'il y a incertitude, mon avis est que l'accusé doit en recueillir le bénéfice et non l'accusation. » Ce n'était certes pas là l'opinion de l'agent de la sûreté, mais il se garda bien de rien dire. C'est avec une attention passionnée qu'il avait suivi le docteur Gendron, et la contraction de sa physionomie disait l'effort de son intelligence. « Il me paraît possible maintenant, dit-il, de déterminer où et comment la comtesse a été frappée. » Le docteur avait recouvert le cadavre et le père Plantat avait replacé la lampe sur la petite table. Ils engagèrent tous deux M. Lecoq à s'expliquer. « Eh bien, reprit l'homme de la police, la direction de la blessure de Madame de Trémorel me prouve qu'elle était dans sa chambre, prenant le thé, assise et le corps un peu incliné en avant lorsqu'elle a été assassinée. L'assassin est arrivé par derrière, le bras levé, il a bien choisi sa place et a frappé avec une force terrible. Telle a été la violence du coup que la victime est tombée en avant et que, dans la chute, son front rencontrant l'angle de la table, elle s'est fait la seule blessure ecchymosée que nous ayons remarquée à la tête. M. Gendron examinait alternativement M. Lecoq et le père Plantat, qui échangeaient des regards au moins singuliers. Peut-être se doutait-il du jeu qu'il jouait. « Évidemment, dit-il, le crime doit avoir eu lieu, comme l'explique M. l'agent. » Il y eut un autre silence, si embarrassant que le père Plantat jugea convenable de l'interrompre. Le mutisme obstiné de M. Lecoq
le taquinait.
Avez-vous vu, lui demanda-t-il, tout ce que vous aviez à voir ? Pour aujourd'hui, oui, monsieur. Pour les quelques perquisitions qui me seraient encore utiles, j'ai besoin de la lumière du jour. Il me paraît d'ailleurs que, sauf un détail qui m'inquiète, je tiens complètement l'affaire. Il faut alors être ici demain de bon matin. J'y serai, monsieur, à l'heure qu'il vous plaira. Vos explorations terminées, nous nous rendrons ensemble à Corbeil chez monsieur le juge d'instruction. Je suis aux ordres de monsieur le juge de paix. Le silence recommença. Le père Planta se sentant deviné, et il ne comprenait rien aux singuliers caprices de l'agent de la sûreté, qui, si prompt quelques heures plus tôt, se taisait maintenant. Monsieur Lecoq, lui, ravi de taquiner un peu le juge de paix, se proposait de l'étonner prodigieusement le lendemain, en lui présentant un rapport qui serait le fidèle exposé de toutes ses idées. En attendant, il avait tiré sa bonbonnière et confiait mille choses au portrait. « Puisqu'il en est ainsi, fit le docteur, il ne nous reste plus, ce me semble, qu'à nous retirer. »« J'allais demander la permission de le faire, dit monsieur Lecoq. Je suis à jeun depuis ce matin. » Le père Planta prit un grand parti. « Regagnez-vous Paris ce soir, monsieur Lecoq ? » demanda-t-il brusquement. « Non, monsieur, je suis arrivé ici ce matin avec l'intention d'y coucher. J'ai même apporté mon sac de nuit. » Qu'avant de venir au château, j'ai déposé à cette petite auberge qui est au bord de la route et qui a un grenadier peint sur sa devanture. C'est là que je me propose de souper et de coucher. Vous serez fort mal au grenadier, fidèle, fit le juge de paix. Vous ferez acte de prudence en venant dîner avec moi. Monsieur le juge de paix est vraiment trop bon. De plus, comme nous avons à causer et peut-être longuement, je vous offre une chambre. Nous allons prendre votre sac de nuit en passant. Monsieur Lecoq s'inclina, la bouche en cœur, à la fois flatté et reconnaissant de l'invitation. « Et vous aussi, docteur, continua le père Planta, bon gré mal gré, je vous enlève. Ah, ne dites pas non. Si vous tenez absolument à rentrer à Corbeil ce soir, nous vous reconduirons après souper. Restez les scellés à poser. » L'opération fut promptement terminée. Des bandes étroites de parchemin retenues par de larges cachets de cire aux armes de la justice de paix furent placés à toutes les portes du premier étage, à la porte de la chambre à la hache, et aussi au battant d'une armoire où toutes les pièces à conviction, recueillies par l'enquête et minutieusement décrites dans les procès-verbaux, avaient été déposées. Malgré toute la hâte imaginable, il n'était pas loin de 10 heures quand le père Planta et les invités purent enfin quitter le château de Valfeuillu. Au lieu de prendre le chemin du matin, ils s'engagèrent dans le petit sentier en pente qui, longeant les propriétés de Madame de Lanascol, conduit en diagonale au pont de fil de fer. C'était le plus court pour gagner l'auberge où Monsieur Lecoq avait déposé son léger bagage. Tout en marchant, le vieux juge de paix, un peu distrait des préoccupations de l'enquête, s'inquiétait de Monsieur Courtois, son ami. « Quel malheur a pu le frapper, disait-il au docteur Gendron. Grâce à la niaiserie méchante de l'affreux drôle qui le sert, nous n'avons rien su absolument. Et c'est au reçu de la lettre de sa fille aînée, Mademoiselle Laurence, qu'on l'a envoyé chercher. On était arrivé devant le grenadier. Sur la porte de l'auberge, le dos appuyé contre les montants, les jambes croisées, un grand gaillard taillé en Hercule, haut en couleur, fumait une longue pipe de terre, tout en causant avec un homme de peine du chemin de fer, venu d'Évry tout exprès pour savoir. C'était l'aubergiste. Dès qu'il aperçut le père Plantin, « Eh bien, monsieur le juge de paix, s'écria-t-il, voilà un malheur. Entrez, entrez. Il y a dans la salle plusieurs personnes qui ont vu les assassins. Quel gredin que cela ripaille. Et ce Gaspin, donc. Ah, je ferai volontiers le voyage de Corbeil le matin, où on dressera leur échafaud. Un peu de charité, maître l'enfant. Vous oubliez trop vite que Gaspin et la ripaille étaient de vos meilleures pratiques. » Maître l'enfant resta quelque peu interdit de la réplique, mais son impudence de cabaretier reprit vite le dessus. « Belle pratique, répondit-il. Ce filou de Gaspin m'emporte 38 francs que je ne reverrai jamais. Qui sait ? Fit ironiquement le juge de paix. Et d'ailleurs, ce soir, vous allez gagner plus que cette somme. Vous avez autant de monde qu'à la fête d'Orcival. » Pendant cette courte conversation, M. Lecoq était entré dans l'auberge pour reprendre son sac de nuit. Sa qualité n'étant plus un secret pour personne, il ne reçut pas l'aimable accueil du matin, alors qu'on le prenait pour un bonnetier retiré. C'est à peine si Madame l'Enfant, une maîtresse-femme qui n'a pas besoin de son mari pour fourrer, les ivrognes qui n'ont plus d'argent à la porte, daigna lui répondre. Quand il demanda combien il devait, elle eut un geste de mépris en disant « rien ». Dès qu'il sortit de l'auberge, son sac de nuit à la main, « Marchons vite, maintenant !» fit le père Plantin. D'autant que je tiens à passer prendre les nouvelles de notre pauvre mère. » Les trois hommes hâtèrent le pas et le vieux juge de paix, agité de pressentiments funestes, cherchant à combattre ses inquiétudes, poursuivait. « S'il était survenu chez Courtois un événement grave, certainement je serais prévenu à cette heure. Peut-être Laurence a-t-elle écrit simplement qu'elle est malade ou même un peu indisposée. Madame Courtois, qui est bien la meilleure des femmes qui soit au monde, se monte la tête pour un rien. Elle aura voulu envoyer son mari chercher leur fille immédiatement. Ce sera, vous le verrez, quelque fausse alerte. Non, il était arrivé quelque catastrophe. Devant la grille de l'habitation du maire, stationnait une quinzaine de femmes du bourg. Au milieu du groupe, Baptiste, le valet qui fait ce qu'il veut, pérorait et gesticulait. Mais à l'approche du redoutable juge de paix, les commères s'envolèrent comme une troupe de mouettes effarouchées. Elle l'avait reconnu d'assez loin à la lueur d'un réverbère. Car Orcival possède et étale orgueilleusement 20 réverbères, présents de M. Courtois, qu'on allume jusqu'à minuit les soirs où il n'y a pas de lune. 20 réverbères à huile de pétrole achetés à la liquidation d'une ville qui, assez riche pour se payer des lumières plus éclatantes, venait d'adopter le gaz. Les réverbères d'Orcival n'éclairent peut-être pas beaucoup, mais par les soirées d'hiver, quand il y a du brouillard surtout, l'huile de pétrole répand une abominable odeur. L'arrivée inattendue du vieux juge de paix contraria sensiblement le tranquille Baptiste, interrompu par la fuite de ses auditeurs juste au milieu d'un superbe mouvement oratoire. Comme cependant il a grand-peur du bonhomme, il dissimula sa contrariété sous son sourire habituel. « Ah, monsieur !» s'écria-t-il, lorsque le père Plantin ne fut plus qu'à trois pas. « Ah, monsieur, quelle histoire ! Je courais vous chercher. Ton maître a besoin de moi ?»« C'est à n'y pas croire !» poursuivit Baptiste. En sortant du Valfeuillu ce soir, monsieur se met à courir si fort, mais si fort, que c'est à peine si je pouvais le suivre. Baptiste s'interrompit pour placer une réflexion qui lui venait. « Monsieur n'a pas l'air leste, n'est-ce pas ?» « Eh bien, il l'est, allez, et joliment, quoique gros. » Le père Plantin, impatienté, frappa du pied. « Enfin, reprit le domestique, nous arrivons ici. Bon, monsieur se précipite comme un ouragan dans le salon où se trouvait madame sanglotant comme une madeleine. Il était si essoufflé qu'il pouvait à peine parler. Les yeux lui sortaient de la tête et il disait comme ça, « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? » Alors, madame, qui ne pouvait pas parler non plus, lui a tendu la lettre de mademoiselle qu'elle tenait à la main. Les trois auditeurs de Baptiste étaient comme sur des charbons ardents, et le drôle qui s'en apercevait égrenait de plus en plus lentement ses paroles. « Voilà donc, continua-t-il, monsieur qui prend la lettre et qui s'approche de la fenêtre pour y voir plus clair à lire. Oh, d'un coup d'œil, il a eu tout lu. Pour lors, on voit tout de même des choses singulières. Il a poussé un cri rauque, comme cela, tenez, oh! Puis il s'est mis à battre l'air de ses deux mains comme un chien qui nage. Puis il a fait deux tours sur lui-même et il est tombé, pouf! Comme un sac, la face contre terre, c'était fini. Il est mort, s'écrièrent ensemble les trois hommes. Oh non, messieurs, répondit Baptiste avec un aimable sourire, vous allez voir. Monsieur Lecoq est certainement patient, mais non autant qu'on le pourrait croire. Crispé par l'allure du récit, il posa à terre son sac de nuit et, saisissant le bras de Baptiste de la main droite, pendant que de la gauche, il faisait siffler un petit jonc très flexible à assommoir de vermeil qui ne le quitte jamais. « Mon garçon, fit-il, je t'engage là sérieusement à te dépêcher. » Il ne dit que cela, et le domestique, qu'on ne gronde jamais, eut une peur terrible de ce petit homme blond, à voix singulière, à poigne plus dure qu'un étau. Il reprit donc très vite, cette fois, l'œil fixé sur le jonc de Monsieur Lecoq. « Monsieur venait d'avoir une attaque, voilà la maison en l'air, tout le monde perd la tête, sauf moi. L'idée d'un médecin me vient, et je cours chercher quelqu'un. Monsieur Gendron, que je savais au château, ou le docteur d'ici, ou le pharmacien, n'importe qui. » À bonheur, juste au coin de la rue, je rencontre Robelot le rebouteux. « Toi, lui dis-je, tu vas me suivre. » Il me suit, il écarte les autres qui soignaient monsieur, et il le saigne aux deux bras. Un petit moment après, monsieur a respiré, ensuite il a ouvert les yeux, enfin il a parlé. Maintenant, il est bien revenu, il est étendu sur un des canapés du salon, pleurant toutes les larmes de son corps. Il m'a dit qu'il voulait voir monsieur le juge de paix, et moi aussitôt. « Et mademoiselle Laurence ?» demanda le père Plantat avec des larmes dans la voix. Baptiste prit une pause tragique. « Ah, messieurs, fit-il, ne m'en parlez pas, c'est navrant !» Le juge de paix et le docteur n'en écoutèrent pas davantage, ils entrèrent vivement. Derrière eux venait monsieur Lecoq. Il avait confié son sac de nuit à Baptiste avec un « Porte-moi ça chez le juge de paix et leste !» qui fit trembler le domestique qu'on ne gronde jamais et lui donna des jambes. Le malheur, lorsqu'il entre dans une maison, semble le marquer de le seuil de son empreinte fatale. Peut-être n'en est-il pas ainsi en réalité, mais c'est le sentiment qu'éprouvent invinciblement les personnes prévenues. Pendant que le médecin et le père Plantat traversaient la cour, il leur semblait que cette maison si hospitalière, si gaie et si vivante, la veille, présentait un aspect lugubre. À l'étage supérieur, on voyait des lumières aller et venir. On s'occupait de la plus jeune des filles de M. Courtois, Mademoiselle Lucille, qui avait été prise d'une affreuse attaque de nerfs. Dans le vestibule, une fillette de 15 ans, qui servait de femme de chambre à Mademoiselle Laurence, était assise sur la première marche de l'escalier. Elle avait relevé son tablier sur sa tête, comme font à la campagne les femmes au désespoir, et pleurait à fendre l'âme. Quelques domestiques étaient là, effarés, immobiles, ne sachant que faire, que devenir dans ce désarroi. La porte du salon, mal éclairée par deux bougies, était toute grande ouverte. Dans un vaste fauteuil près de la cheminée, Madame Courtois était renversée plutôt qu'assise. Au fond, près des fenêtres donnant sur le jardin, M. Courtois gisait sur le canapé. On lui avait retiré son paletot, et pour aller plus vite, au moment où sa vie dépendait d'un coup de lancette, on avait déchiré et arraché les manches de sa chemise et de son gilet de flanelle. Des bandes de toile, comme on en a juste après les saignées, entouraient ses deux bras nus. Près de la porte, un petit homme vêtu comme les artisans aisés des environs de Paris semblait fort embarrassé de sa contenance. C'était Robelot, le rebouteux, qu'on avait fait rester, crainte de quelque nouvel accident.
Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.